Du coup, moi je m'appelle Clélia, j'ai 23 ans. Donc je suis née, non pas née à Varoix, mais née pas loin de Varoix. Et je suis arrivée à Varoix à l'âge de mes 3 ans, à peu près, 3-4 ans. J'ai un parcours un peu atypique, entre guillemets. Parce qu'à l'âge de mes 6 ans, on m'a découvert en fait une maladie génétique qui est dégénérative assez grave, qui est la mucoviscidose. Ce qui est un peu particulier, c'est que normalement, c'est une maladie qui se détecte en général à la naissance. Et moi, les médecins n'ont pas vu tout de suite que j'étais atteinte de cette maladie. À l'âge de mes 6 ans, ma santé s'est un petit peu dégradée. J'ai enchaîné les hospitalisations. Et puis un jour, le diagnostic est tombé. Et les médecins ont dit à mes parents, bah, en fait, voilà, la petite fille voilà, que vous avez, cette petite fille souriante qui n'a absolument rien demandé à personne, est en fait atteinte d'une maladie dégénérative mortelle qui du coup touche les poumons, le système digestif et puis qui entraîne un tas de complications. Donc forcément à l'âge de mes 6 ans, bah, ça a été un tremblement de terre pour toute ma famille, tout mon entourage, parce que personne n'aurait pu se douter que j'étais atteinte d'une maladie comme ça. Et puis forcément, à cette époque-là, bah, on ne connaît pas vraiment ce qu'est la mucoviscidose, on sait que ça touche les poumons. Mais on n'est pas très renseigné sur le sujet. Ma maman, à l'époque, je crois qu'Internet n'existait même pas. Elle avait dû regarder dans le dictionnaire le mot mucoviscidose. Et puis, c'était marqué que l'espérance de vie, c'était 15 ans. Donc, du coup, bah, ça, c'est un véritable, voilà, un véritable choc, je pense. Et je pense que malgré ça, malgré tous les chiffres que j'avais en tête sur mon âge limite, sur tout ce que les médecins pouvaient dire, sur tout ce qu'on pouvait entendre, tout ce qu'on pouvait voir, ben en fait, mes parents se sont dit que j'allais avoir la même vie que tout le monde. Voilà, peu importe que j'ai cette maladie ou non. J'ai une petite sœur aussi, j'ai eu la chance. Donc, comme tu disais tout à l'heure, je pense que le hasard n'existe pas. Parce qu'en général, quand on diagnostique cette maladie à la naissance, en général, les médecins déconseillent les parents d'avoir un deuxième enfant parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit aussi porteur de la maladie. Et moi, comme on a découvert ma maladie tardivement, ma petite sœur était déjà née. Donc tout de suite, quand le diagnostic est tombé, on a fait un tas de tests à ma petite sœur. Par chance, elle n'est pas du tout atteinte par cette maladie. Je pense que c'est un peu les aléas de la génétique qui ont fait qu'elle n'a pas été touchée. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle, je pense. Et donc tout s'est un petit peu enchaîné. J'ai eu voilà, une vie rythmée par voilà, une vingtaine de médicaments à prendre tous les jours, des séances de kiné, des hospitalisations très fréquentes, des camarades de classe qui se posent des questions quand j'arrive et que ben, j'ai voilà, les bras avec des seringues clairement un peu dans tout le bras. Voilà. Quand j'arrive fatiguée, que je tousse, que je sors de cours, que parfois c'est l'infirmière qui vient me chercher. Ben, forcément, en plus je pense, quand tu es à l'école primaire, les enfants ont très peu de filtres. Donc tout ce qu'ils pensent, ils vont te le dire. Moi, j'ai vécu un moment aussi pas facile. Je pense que c'est notre génération. Vous avez sûrement tous entendu parler de Grégory Le Marchal. Voilà, star. Enfin, ouais, je pense que c'était un modèle pour moi, Grégory Le Marchal. Voilà, de mes yeux d'enfant, j'ai vu tout ce qu'il avait fait. Et je pense que ça. Je pense que ça donnait de l'espoir à mes parents de voir un petit peu le parcours qu'il avait. Et puis bah forcément, quand on a appris son décès, moi j'avais 10 ans, c'était tout de suite, moi j'ai appris, je crois que j'étais en, ouais je devais être en récréation avec mes camarades de classe, et puis tout de suite ça s'est su, ça s'est très très vite répandu, et j'ai eu tout de suite des remarques, ah t'as vu, il est mort à 23 ans, je crois qu'il avait 23, ouais il allait avoir 24 ans, la veille de ses 24 ans il est décédé. Donc tout de suite, bah, tu as vu, toi aussi, tu vas mourir à cet âge-là. C'est vraiment sans filtre. On m'a dit, voilà, on m'a fait des remarques comme ça. Et forcément, quand tu te prends ça en pleine face, C'est pas facile. Donc, je sais pas pourquoi j'étais convaincue que j'avais envie d'y croire. J'avais envie de me dire que non, moi, je finirais pas comme tous ces mucos qui étaient un peu plus âgés que moi et qui, bah, mine de rien, paraissaient invincibles face à la maladie, mais qui partaient quand même de plus en plus à l'âge de. Moi, j'ai aujourd'hui 23 ans. Donc, ça fait bizarre, je pense, d'arriver à un âge où tu te disais, bah, j'ai cru ne jamais atteindre l'âge de 23 ans. Et je pense que, ouais, j'avais mon entourage qui avait tendance à me dire de profiter de la vie, les médecins qui me disaient de pas trop me projeter, de vivre beaucoup au jour le jour. Donc, je pense que j'ai été pendant. Ouais, toute mon enfance dans cette optique de me dire, bah, je me projette pas trop. Alors que quand on est enfant, bah, on pense tout ce qu'on a envie, c'est on parle beaucoup de son futur, de ses projets. Moi, je veux faire tel métier, je veux avoir tant d'enfants, je veux avoir une belle maison, une grande famille. Et moi, j'étais pas trop dans cette optique de me projeter aussi loin. J'étais plutôt à me dire, bah non, je profite de ce que j'ai, je suis en bonne santé pour le moment. J'arrive à malgré les hospitalisations, j'arrive à suivre un rythme scolaire. Ouais, j'arrive à profiter de ma vie un petit peu comme je peux. Et puis petit à petit, les années évoluaient et je me suis dit, bah, moi, je vais avoir le droit aussi de faire des études supérieures, même si on me l'a toujours déconseillé, même si beaucoup de personnes n'ont pas forcément cru en moi, hein, je pourrais le dire comme ça, mais clairement. Je me suis dit, bah, j'ai envie de me donner le droit de rêver, j'ai envie de m'autoriser à rêver d'un avenir, de faire les études que je veux faire, d'avoir un métier, et d'être ambitieuse sur ma carrière. Et donc, du coup, bah, tout s'est enchaîné, le lycée, bon, j'en parle assez vite, hein, assez synthétiquement, mais ça n'a pas toujours été rose, hein, forcément, bah, comparé aux autres étudiants, moi. À la fin de la journée, bah, contrairement aux autres copines qui restaient pour faire les devoirs ensemble, bah, moi je devais rentrer parce que j'avais mes soins qui m'attendaient. Donc c'était, voilà, une vie rythmée, une vie un peu différente de celle des autres, même si la maladie se voit pas parce que la mucoviscidose est invisible, c'est pas marqué sur mon front que je suis atteinte de cette maladie-là. Et puis, bah, voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement jusqu'à l'obtention de mon bac et la question de se dire, bah, bah, ça y est, je continue, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai obtenu mon bac sans aucune année de retard, malgré toutes les hospitalisations que j'ai eues. Je me suis dit, bah, je continue. Donc, j'ai fait du coup 5 années d'études qui se sont bien passées malgré les aléas, les hauts et les bas. Et je suis arrivée du coup, j'ai été diplômée bah, l'année dernière, en septembre 2020, de mon master, du coup, un master donc en RH, ressources humaines. Donc aujourd'hui, du coup, je fais partie de la direction des ressources humaines d'une PME sur Dijon. Et je m'éclate dans mon job au quotidien. Aujourd'hui, je pense que je pense que je regrette pas tout ce que j'ai fait, même si parfois j'ai mis entre parenthèses ma santé. Parce que quand on est dans les études, j'ai fait notamment une classe préparatoire où c'était un rythme assez intense. Et je me souviens le premier jour, je crois que c'était la journée de rentrée, où, bon, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ma maladie, ça ne me dérange pas du tout d'en parler, j'ai toujours mis mes professeurs au courant. Et je me souviens le premier jour, donc c'était ma première année d'études supérieures, j'arrive justement dans cette classe préparatoire et je voulais prévenir mon professeur de ce que j'avais, parce que je voulais, voilà, qu'il soit plus compréhensif si j'étais amenée à m'absenter ou avoir quelques retards ou devoir sortir de cours si je ne me sentais pas bien. J'ai voulu le prévenir et alors là, les yeux qu'il a fait quand il a su que j'étais atteinte de cette maladie, mais c'était vraiment, mais vous êtes sûre de vous? Vous êtes sûre que vous voulez continuer en classe prépa? Moi, je vous conseille de vous orienter ailleurs. Préservez votre santé, vous n'avez pas besoin de vous imposer un rythme comme ça, surtout si vos jours sont comptés. Et c'était une vraie claque que je me suis prise, vraiment parce que moi, je me suis toujours donné les moyens de réussir et j'avais envie de réussir ces 2 années de classe prépa. Et je sais que beaucoup sont partis au bout de quelques jours parce que le rythme est quand même pas facile, je trouve. Et je pense que je me souviendrai toujours des yeux que. que ce fameux professeur qui me déconseillait de venir en classe prépa a fait quand j'ai été justement diplômée de ces 2 années de classe prépa et que j'ai intégré une école par la suite, bah, je me souviendrai toujours de sa tête où il me regardait comme ça. Ah ouais, ok, alors que c'était clairement quelqu'un qui avait pitié. Pitié, quoi. Et c'est vrai que ouais, je pense que c'est un peu une revanche que j'ai pris aussi sur la maladie, surtout sur les autres. Après, je pense que j'ai eu de la chance que ma maladie bah, m'épargne, entre guillemets, par rapport à certains qui ont des parcours plus difficiles que moi. Je me suis toujours instauré une rigueur dans mes soins, dans mes traitements, dans mon hygiène de vie. Donc, pas de cigarettes, pas d'alcool. Voilà, je me suis toujours imposé un rythme de vie assez rigoureux. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis pleinement, même avec cette maladie-là. J'ai une maladie qui aujourd'hui est stabilisée. Donc, j'essaie de préserver le plus longtemps possible mes poumons. Et aujourd'hui, je pense que je suis reconnaissante. Bah déjà, on peut le dire que je suis fière de mon parcours. Hein. Je pense que c'est important d'être fière de soi. Donc, je suis fière de, voilà, de tout ce que j'ai franchi. Et je pense aussi que je suis très, très reconnaissante de mon entourage, surtout de mon entourage proche. Donc, mes amis proches, ma famille proche, mes parents, ma petite sœur, qui, je pense, ont toujours cru en moi. Et je pense que c'est justement le soutien infaillible de mes proches qui m'ont permis d'affronter l'impossible. Je dirais vraiment, je pense que c'est tout ça qui ont fait que j'ai réussi à surmonter l'insurmontable. Et aujourd'hui, bah, je voulais t'en parler, Christophe, mais j'ai appris des bonnes nouvelles. Récemment, ça tombe bien, hein, ce reportage vraiment. Et c'est là que je me dis, purée, j'ai bien fait de me battre jusqu'au bout. Donc là, depuis le début juillet, j'ai appris que Olivier Véran a fait une annonce début juillet, un traitement qui est sorti aux États-Unis depuis 5 ans, qui fait des miracles sur la mucoviscidose, qui en fait est capable de corriger tous les symptômes de la mucoviscidose, c'est-à-dire qu'on est toujours avec la maladie. Par contre, on n'aura plus les symptômes de cette maladie. Donc, c'est un traitement absolument miraculeux. Et Olivier Véran a fait une annonce en disant qu'il débloquait des milliards d'euros pour justement enfin, autoriser ce médicament à venir en France et du coup être délivré auprès des patients. Donc, j'ai eu une hospitalisation la semaine dernière et je suis repartie avec justement cette ordonnance pour tester ce fameux traitement. Voilà, qui apparemment est absolument miraculeux et qui enlève ce côté dégénératif où on ne parle plus de grève des poumons, où c'est quelque chose d'hyper encourageant. Et là où c'est le plus efficace, c'est sur les poumons qui ont été le plus conservés. Et donc je me dis que toutes les fois où j'ai un kiné qui me suit depuis que j'ai 6 ans, depuis la découverte de ma maladie, je suis très très proche de mon kiné. Il fait presque partie de ma famille. Et toutes les fois où je l'ai envoyé chier, parce que c'est quand même assez lourd quand on a de la kiné tous les jours, tous les jours, tous les jours, même en vacances, même le jour de Noël, c'est dur. Et toutes les fois où je l'ai envoyé chier parce que j'avais pas envie de faire mes soins, parce que j'étais de mauvaise humeur, parce que j'avais juste envie d'aller jouer avec mes copines comme tous les autres enfants, et ben je me dis qu'en fait je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait vraiment pris un peu bah, sous son aile et qu'il m'ait toujours poussé à me battre, à persévérer, même quand j'en avais le moins envie, parce qu'aujourd'hui j'ai des poumons qui sont encore en bonne santé, qui sont bien préservés, et je vais pouvoir bénéficier de ce fameux traitement.
Est-ce que tu peux juste, par rapport à Grégory Lemarchal, qui était un modèle pour toi, nous parler un petit peu de
Oui.
comment tu envisages la maladie et comment tu la partages avec d'autres personnes sur...
Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est quand même un passage enfin, qui s'est déroulé dans ma vie et qui a quand même été important. En plus de m'être battue, enfin, je dis, me battre encore aujourd'hui, j'ai décidé il y a quelques années, je pense que ça a été le fruit d'un tas de réflexions, d'un tas de remarques que j'ai pu avoir au cours de ma vie sur la maladie, sur la mort de Grégory Lemarchal. Je me suis rendu compte en fait que. Bah, quand on parle de la mucoviscidose, on ne sait pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si vous saviez ce que c'était vraiment avant de me rencontrer ce soir. On sait que ça touche les poumons. On sait que Grégory Marshall, il est mort de ça. Mais sinon, derrière, on ne sait pas trop tout ce qui se passe. Et c'était en 2000, 2018. J'ai été un peu plus touchée par la maladie et j'ai dû prendre un traitement parce que j'avais une infection à cette époque-là. J'étais colonisée à une bactérie assez virulente dans la mucoviscidose. Et donc, je vais prendre un nouveau traitement que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Je ne savais pas vraiment comment le prendre, je ne savais pas quels étaient les effets secondaires. Et donc, j'ai voulu faire mes petites recherches sur Internet, voir si des personnes avaient utilisé ce traitement, savoir si ça avait été efficace pour traiter cette infection que j'avais. Et en fait, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que très peu de personnes parlaient de la mucoviscidose sur Internet. J'ai trouvé très très peu de témoignages à ce sujet-là. Enfin, des témoignages en français, il y avait quelques vidéos en anglais, mais vraiment très peu. Et je me suis dit, mais merde, aujourd'hui, la mucoviscidose, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France, et j'ai l'impression que personne n'en parle. Je me suis fait cette réflexion aussi parce que souvent, quand je disais à mes copines, je me souviens en classe prépa, quand je leur disais que après les cours, j'avais ma kiné et qu'après, j'allais faire mon sport, j'avais des regards des fois, des copines qui me disaient, mais attends, Clélia, t'as le droit de faire du sport avec ta mucoviscidose? Pour moi, le sport, c'est ultra déconseillé. Et en fait, plein de remarques comme ça, et je me suis dit, mais non, pas du tout. Il y a une communication, il y a un gros défaut de communication en fait sur la maladie, parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est quelque chose de fondamental pour nos poumons. Et du coup, par rapport à tout ça, je me suis dit, il faut que je parle de la maladie ailleurs que juste dans mon cercle proche et dans mon entourage. Il faut que j'en parle sur les réseaux. Donc du coup en 2018 j'ai commencé à lancer ma première vidéo sur YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle du coup Mu Quotidien. C'est un petit jeu de mots entre mucoviscidose et quotidien. Et en fait je dévoile face caméra tout ce que c'est que de vivre tout en fait le quotidien quand on a la mucoviscidose, tout ce qui se cache derrière le mot mucoviscidose. Donc je parle de mes traitements, je parle de mon diagnostic, je montre comment ça se passe mes séances de kiné, j'ai fait des espèces de... J'ai copié un petit peu volontairement en me moquant de tout ce qu'on pouvait voir sur YouTube, sur les morning routines, sur les night routines. Moi j'ai repris un peu ça et j'ai montré que ma morning routine, c'est pas que me mettre du mascara et du fond de teint le matin, c'est aussi faire tous mes aérosols, prendre mes 20 médicaments le matin, faire ma séance de kiné le soir. Donc voilà, j'ai commencé à sortir plusieurs petites vidéos, je ne savais pas ce que ça allait donner, et puis petit à petit j'ai eu pas mal de retours de muco. De parents enfin, de parents d'enfants qui ont été diagnostiqués de la mucoviscidose. Et en fait, j'ai pris une claque quand j'ai reçu vraiment tous les messages positifs qui m'ont touchée, surtout des parents, parce que j'ai des parents voilà, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont laissé des commentaires sous mes vidéos pour me dire, mais merci, mon enfant vient d'être diagnostiqué il y a une semaine et je suis effondrée. Et en fait, ça m'a rappelé un petit peu mes parents, ma maman, mon papa, qui, quand ils ont appris mon diagnostic, ils avaient que le dictionnaire Larousse qui disait espérance de vie 15 ans. Et moi, j'ai voulu prendre ma revanche, surtout pour mes parents, en disant, voilà, espérance de vie 15 ans, moi je suis là, j'ai 23 ans, je vais bien, j'ai un métier, j'ai une vie, j'ai des amis, je fais la fête, je profite à fond, même en ayant la mucoviscidose.